Histoire des Scouts de France. Depuis déjà deux émissions, nous avons abordé ce gros livre écrit par Philippe Lanéry, chercheur au CNRS, sur les Scouts de France, l'évolution du mouvement des origines aux années 1980. Notre première émission était justement consacrée à l'origine, Baden-Powell, toute sa pédagogie, l'arrivée en France du mouvement. Et puis, la dernière fois, nous avons abordé une période de 1920-1940, les problèmes posés par la guerre en particulier, les ébranlements, comme Philippe Lanéry le précise dans son livre. Avec lui, nous avons la joie d'être entourés de deux responsables de l'équipe départementale des Scouts de France à Lyon, en particulier M. Michel Raveau et aujourd'hui M. Jean-Louis Bosque. Nous dialoguons pour mieux connaître, pour mieux comprendre ce grand mouvement qui a marqué des générations et des générations de jeunes et d'adultes en France. Du reste, Philippe Lanéry estime à plus d'un million de jeunes ceux qui ont été rejoints par le scoutisme. Alors, Philippe Lanéry, peut-être qu'aujourd'hui il est bon de revenir à cette période des années 40-45 qui ont vu l'ébranlement des certitudes, en quelque sorte.
Oui, alors je voudrais d'abord revenir ou insister sur une période qui est tout à fait cruciale pour le mouvement, c'est celle qui s'étend en gros de la fin de la guerre de 1944-45 jusqu'à 48, hein, en gros, parce que c'est une époque charnière. Et les évolutions qui ont lieu à ce moment-là vont pour une large part déterminer tout l'avenir des Scouts de France, je dirais presque jusqu'à notre époque. Bon, on a vu que pendant la guerre, il s'est opéré des clivages. Il y a des clivages entre les, disons, les maréchalistes, je préfère ce terme à celui de pétainiste d'ailleurs, parce que de nombreux responsables laïcs ou religieux des Scouts de France sont restés jusqu'au bout fidèles au maréchal, parce que c'était le chef avec un grand C, parce qu'il croyait en son honneur, parce qu'il est dans la nature des Scouts d'être fidèle, mais ça ne signifie pas qu'ils étaient pétainistes, avec toutes les connotations politiques qu'implique ce terme. Clivage donc entre les Scouts restés maréchalistes, fidèles et obéissants jusqu'au bout, et puis les résistants de la première ou de la deuxième heure, et parmi ces derniers, ceux qui ont refusé le STO. Clivage entre ceux des chefs scouts et des routiers qui, à travers les chantiers de jeunesse, ou les écoles d'Uriage, par exemple, à travers divers contacts, diverses expériences, à travers les brassages de toute nature qui ont été occasionnés par le choc de la guerre et de l'occupation, se sont ouverts aux politiques, à certaines formes d'action sociale, et plus généralement sont devenus plus réalistes. Et puis, ceux qui ont voulu maintenir contre vents et marées l'identité et les structures scouts. Clivage, enfin, entre ceux qui sont partis et puis ceux qui sont restés. Et dès 45-46, ça pose un premier problème. Parce qu'on peut, disons, distinguer à cette époque, parmi les cadres du scoutisme, au moins cinq groupes. Distinction qui était tout à fait inopérante avant la guerre et même pendant la première partie de la guerre. Ce sont cinq groupes qui ont suivi cinq trajectoires différentes depuis 39-40. Il y a les prisonniers de guerre, ceux qui ont été, qui ont passé la guerre pratiquement, qui ont été faits prisonniers en 39 ou en 40 et qui ont passé la guerre dans les camps en Allemagne, dans les Oflags, dans les Stalags. Là, il faut citer des noms, je crois que les types, si vous voulez, si on peut dire, c'est Georges Gautier, Michel Rigal, qui vont se retrouver d'ailleurs à la tête du mouvement dans les années qui vont suivre.
Eux, ils ont été prisonniers, c'est-à-dire ils n'avaient aucune responsabilité. Ils étaient officiers, ils ont été faits prisonniers.
Ils étaient officiers, ils étaient soldats, ils ont été faits prisonniers, mais dire qu'ils n'avaient aucune responsabilité, c'est... dans les structures actives du mouvement, bien entendu, puisqu'ils étaient en prison. Ils étaient en prison dans les camps.
Non, mais je veux dire, même dans le cadre des camps.
Ah si, pas du tout. Alors c'est là justement qu'il y a une différence importante, c'est que même étant au camp, ils étaient scouts. Mettant dans les camps allemands, bien entendu. Mmh. Ils étaient scouts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés passifs en attendant que la guerre se termine, pas du tout. Ils ont assumé des responsabilités qui étaient d'autant plus difficiles à assumer, d'ailleurs, à l'intérieur de ces oflags ou de ces stalags, qu'ils ont subi une chute vertigineuse, je m'explique. C'est-à-dire qu'ils étaient partis, tous, jusque dans 1939, sur l'idée qu'ils étaient des conquérants, des chevaliers des temps modernes, des vainqueurs potentiels.
Et puis ils étaient vaincus.
Voilà. Et les voilà en position de vaincus, de prisonniers, sachant par ailleurs que leur pays est envahi par une armée hostile, c'est très difficile à supporter. Néanmoins, ils réagissent, et ils réagissent, semble-t-il, très bien. C'est-à-dire qu'ils sont là. Bon, Dieu les a mis là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toute une très importante dimension chrétienne dans leur comportement. Dieu les a mis là, ils sont là, il faut qu'ils agissent en fonction de la situation où ils se trouvent. Et ils vont fort bien réagir, c'est-à-dire qu'ils vont... Alors certains d'entre eux vont aller jusqu'à organiser des filières d'évasion, des têtes de filières d'évasion. D'autres ne vont pas suivre cette démarche, mais ils vont faire tout leur possible pour animer ces camps. Ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils les animent de deux manières. D'abord, à travers un certain nombre d'activités théâtrales ou autres, par exemple. Ça fait partie du fait qu'il n'y a rien de pire quand on est prisonnier dans un camp et qu'on ne voit pas le bout de la guerre que de se décourager, de ne rien faire. Tout ça, ils vont réagir là contre. Ils vont réagir avec les gens qui sont autour d'eux, qui souvent n'ont strictement rien à voir avec le scoutisme. Et d'autre part, ils vont également... Ils vont prendre toutes les manières possibles à leur disposition pour entretenir le moral des prisonniers et la foi dans un retournement de situation. Bon, et là je crois qu'ils vont jouer un rôle tout à fait considérable à l'intérieur des camps, qui sera d'ailleurs reconnu par des non-scouts eux-mêmes à l'issue de la guerre, après la libération. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement, bien sûr, de ce premier groupe.
Je voudrais simplement apporter un témoignage. Mon père, qui a connu cette épreuve, a reconnu toute l'efficacité des scouts et leur ingéniosité durant l'époque difficile qu'il a traversée. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a été un peu à l'origine de ma vie au niveau du scoutisme, enfin dans la branche du scoutisme. Alors je voulais simplement le souligner.
Jean-Louis Bosque, en fait, vous faites partie de l'équipe départementale actuellement à Lyon. Vous évoquez le fait que votre père lui-même a été prisonnier.
Tout à fait, oui. C'est ça. Et il m'a rapporté donc combien cette époque l'avait marqué. D'un rien, les scouts arrivaient effectivement à recréer une vie en fait à l'intérieur du camp et à se tirer de recréer un climat plus humain. Et je crois que ça l'a marqué, profondément marqué.
Merci. Alors Philippe Lanéry, ça c'est la première au fond classification, c'est le premier groupe des scouts qui en tant que prisonniers prennent la relève, le moral et essayent de vivre.
Voilà. Alors le second groupe, si vous voulez, ce sont les revenants du STO, du service du travail obligatoire. Là je crois qu'il faut préciser pourquoi beaucoup de scouts sont partis au STO. Ça n'est pas, bien entendu, par conviction, ils n'avaient aucune envie de travailler pour l'Allemagne. C'est essentiellement, ça n'est pas non plus par crainte, hein, je ne crois pas, du moins pour la plupart d'entre eux. C'est pour deux raisons. La première, qui est, je pense, la moins importante, c'est l'obéissance, tout simplement. Bon, l'obéissance, le gouvernement, le maréchal Pétain, on avait pris l'habitude d'obéir au chef, le chef disait que, on part. Mais je ne crois qu'à cette époque, tout de même, nous sommes au début de 43. Je crois qu'à cette époque, beaucoup de scouts commençaient à se poser des questions. Et donc la raison principale, ça n'est pas tellement l'obéissance, c'est plutôt un certain idéalisme. Et cet idéalisme, on peut le traduire de la façon suivante. Il ne faut pas priver les requis d'une présence scout. C'est une attitude, c'est une démarche missionnaire. En fait, il ne faut pas les priver d'une présence scout. Il ne faut pas que ces jeunes qui partent, qui sont un peu désemparés souvent, parfois même désespérés, mais enfin qui partent parce qu'ils ne voient pas d'autre solution, ils ne se trouvent pas dans des conditions telles qu'ils puissent choisir. Il ne faut pas qu'ils soient privés de cette présence. Il faut que, comme dans les camps de prisonniers, il y ait également des gens qui leur remontent le moral, qui les aident à vivre, qui les secouent au besoin. Et qui leur apporte aussi une certaine, entre guillemets, une certaine bonne parole, si vous voulez. Mais enfin, ce terme est un petit peu ridicule, mais pour l'instant, je n'en trouve pas d'autre. Mais c'est vraiment au sens fort du terme. Une parole et un témoignage qui soit fort et qui leur montre que, d'abord, tout n'est pas perdu, et ensuite, où qu'on se trouve, on a le droit de vivre et on peut vivre en homme. Voilà, je crois que c'est pour ça que beaucoup sont partis non sans déchirement.
Mais le retour a dû être très différent.
Alors le retour, on pourra en parler, si vous voulez, il a été très différent, oui, parce qu'effectivement le retour s'est fait dans des conditions politiques qui n'étaient pas favorables, bien entendu. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure, pour voir comment s'est organisé l'encadrement des scouts de France après la guerre.
Enfin, c'était le deuxième groupe, donc ceux qui participaient au STO.
Voilà, et parmi lesquels, il y a eu notamment des Lyonnais, des Stéphanois. Je pense au père Perrin, je pense à Jacques et Thévenon, qui étaient des responsables stéphanois. Je les cite parce que je suis Stéphanois moi-même.
Michel Raveau.
Oui, et souvent, ils ont même été inquiétés en Allemagne, puisqu'ils faisaient de l'action catholique. Et un homonyme très bien connu, le père Béchet, par exemple, qui est parti au STO, et qui s'est retrouvé au camp de concentration de Flossenbürg, où il a failli mourir en compagnie de beaucoup d'autres, où il a connu également des jeussistes et des autres scouts. Donc beaucoup ont été inquiétés par la police allemande parce qu'ils faisaient une action catholique.
Voilà, alors ça ce sont des groupes de gens qui, 7 ans, ayant été d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, hors de France, chez l'occupant, soit en tant que prisonnier, soit en tant qu'OSTO, ces deux premiers groupes, ce sont des gens qui non seulement ont vécu une expérience qui, avec le recul, est assez extraordinaire, mais qui, en même temps, suivant la façon dont ils l'ont vécu, peut être à la fois ou déprimante ou exaltante. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'ils ont vu, ils se sont frottés, eux aussi, à tout un tas d'autres gens dans des conditions tout à fait particulières. Vous avez cité tout à l'heure des jossistes. Il y a eu des gens au STO qui venaient de n'importe où, n'est-ce pas, et avec qui il fallait compter.
Bon. Il y avait ceux qui croyaient au ciel et puis ceux qui n'y croyaient pas.
Tout à fait. Il y avait déjà ça. Et puis il y avait la façon, il y avait le côté sociologique, si vous voulez, proprement dit, il y avait le côté politique, il y avait aussi la façon de réagir des individus. Bon, tout ça, ça leur a appris énormément de choses. En même temps que ça les a placés dans des situations, lorsqu'ils sont revenus en France, qui étaient, alors, glorieuses pour ceux qui avaient résisté à 4 ou 5 ans de flag ou de stalag, en menant cette action-là, et qui aurait pu être glorieuse aussi pour certains revenants des STO, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons politiques, évidemment, ça n'a pas tout à fait été le cas. Il faudrait leur rendre justice, d'ailleurs, à la plupart de ceux qui sont partis par idéalisme au STO, parce que finalement, eux sont partis volontairement, ça a été un choix terrible. Ils ne savaient pas quand ils sont partis combien de temps allait durer la guerre. Ils ne savaient pas si l'Allemagne finalement ne serait pas victorieuse en définitive. Ils n'en savaient rien. Ils ont fait vraiment un choix qui engageait leur propre existence. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, ça s'est souvent terminé dans les camps de concentration. Hein. Donc ce sont des gens qui ont, me semble-t-il, ceux qui sont partis pour cette raison-là, ce sont des gens tout à fait remarquables.
Alors les deux autres groupes, ce sont ceux qui sont restés en France.
Oui, en fait ils sont trois. Hein. Les trois autres groupes sont ceux qui sont restés en France. Et je crois qu'on peut distinguer, alors j'y faisais déjà allusion antérieurement, d'abord à ceux que la guerre a changé, parce qu'ils ont été influencés par Emmanuel Mounier, par Uriage, par tout un tas d'autres mouvements avec lesquels ils ont eu à se frotter un petit peu. Bon, ils ont mené des activités sociales, voire politiques diverses, avec d'autres mouvements. Alors, type là, c'est Pierre Goutet, André Cuisiat, et notamment le dernier cité, André Cuisiat, qui par la suite va bifurquer d'avec le scoutisme proprement dit, et après avoir fondé les Amitiés Scouts, il va fonder la Vie Nouvelle. Bien. Et puis alors, dans ceux qui restent, il y a les résistants et les autres. Alors, les résistants de la première ou de la deuxième heure, d'ailleurs, puisqu'il y a eu une première vague de résistants dès le départ, ceux qui sont évadés, par exemple, des camps, et qui ont fait de la résistance ensuite, type Michel Menu. Et puis, il y a ceux qui ont fait de la résistance à partir, justement, du refus du STO. Comme beaucoup d'autres jeunes de l'époque, d'ailleurs. Et puis, je crois que dans ce groupe, il faut mettre aussi, il ne faut pas les oublier, les organisateurs du scoutisme clandestin en zone nord. Le centre national, le quartier général, comme on disait à l'époque, des scouts de France officiels, si je puis dire, était à Lyon. Mais ça, c'était la zone libre, au moins jusqu'à la fin de 42. Mais il existait un scoutisme en zone nord, un scoutisme plus ou moins clandestin d'ailleurs, parce que suivant les situations locales, les autorités allemandes étaient plus ou moins tolérées, plus ou moins le scoutisme. Enfin, en principe, il était interdit. Et un homme comme Pierre Delsuc, d'ailleurs, qui avait déjà un poste de responsabilité dans le mouvement avant la guerre, qui était celui qui avait fait notamment les livres pédagogiques bien connus comme étape ou pour entrer dans le jeu, va se retrouver d'ailleurs après la guerre responsable national pendant une courte période. Il va assurer la transition, si vous voulez, juste après la guerre avec l'équipe qui était restée en place à Lyon. Alors ça, c'est un premier groupe. Le second groupe, c'est le second, hein, j'ai dit, de ceux qui sont restés en France. Donc ceux que la guerre a changé mais qui vont bifurquer, ça en fait un. Et puis ceux qui ont résisté ou ont fait de la résistance plus ou moins active, plus ou moins passive, soit en zone nord en organisant le scoutisme clandestin, et quelquefois d'ailleurs aussi des actes de résistance, et soit en zone sud en passant dans les maquis, après 42. Et puis alors, le dernier groupe, ce sont les gardiens des structures, il en fallait. C'est-à-dire ceux qui, jusqu'au bout, sont restés, disons, entre guillemets, maréchalistes, soit par conviction, soit par nécessité. Le type, c'est Eugène Dary, qui a été pendant toute la durée de la guerre commissaire général du mouvement en zone sud. Et puis les pères Doncœur et Forestier dans une certaine mesure. Enfin, le père Doncœur, sans aucun doute. Le père Forestier a eu une attitude un petit peu plus différente à la fin de la guerre. Bon, il a d'ailleurs eu des problèmes à la fin de la guerre, il a eu des problèmes avec les Allemands, et après la guerre, il a eu pendant un temps court des problèmes avec la résistance, enfin avec les comités de libération. Enfin bref, ceux-là sont restés à Lyon, au quartier général des scouts de France, jusqu'à la fin de la guerre. Ils étaient d'ailleurs souvent divisés entre eux, hein, notamment en 44-45, sur la conduite à tenir. Parfois, ils soutenaient des réseaux de résistance, parfois, ils refusaient d'engager le scoutisme là-dedans, en disant non, c'est un mouvement éducatif, on ne peut pas aliéner cette particularité du scoutisme en s'engageant dans une action directement politique. Ça leur posait des problèmes. Ce qui n'empêche pas qu'il faut rappeler qu'à Lyon, et notamment chez un certain nombre de responsables scouts, le quartier général ou certains membres du quartier général ont souvent eu une action soit de protection, hein, je pense notamment aux juifs, soit ou à certains résistants qui étaient déjà repérés, soit de soutien même quelquefois à des réseaux comme celui de Michel Menu qui était installé à Lyon. Bon, il y avait des résistants scouts comme Menu ou Clade qui menaient des actions tout à fait directes, enfin de résistance, et le QG leur servait en quelque sorte de couverture. Et c'est là qu'on voit que quelles que soient finalement les opinions ou l'attitude proprement dite de ceux qui y sont restés, le scoutisme était un ciment incomparable à cette époque. Voilà un petit peu les cinq groupes, si vous voulez, qu'on retrouve en 45.
Alors, à travers, au fond, ces cinq groupes, on se rend compte que les scouts font partie de la société, ils font partie d'un pays, et ils vivent, au fond, la vie de tout le monde. Mais, justement, leurs principes pédagogiques, toutes les perspectives, tous les fondements du scoutisme se trouvent mis à mal.
Oui. Je reviendrai un peu sur ce qu'a dit Philippe Lannery. Il y a eu des clans routiers de Lyon qui sont passés dans le Vercors, et donc beaucoup de routiers ont été fusillés là-bas. Voilà, j'en ai connu un certain nombre.
Oui, il y a eu des clans routiers, il y a eu des clans routiers entiers ou en grande partie. Il y a eu un clan routier entier à Belfort aussi qui est passé à la résistance. Il y a eu des maquis comme celui du Mont Mouchet que les résistants eux-mêmes appelaient la troupe des scouts ou le maquis des scouts, parce qu'il était essentiellement constitué soit de scouts de France, soit d'éclaireurs de France. Bon, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qui reste après la guerre ? Ça, c'est là qu'il va rester. Il va y avoir un problème de restructuration des cadres. Alors, tout à fait au sommet de la hiérarchie, il va rester les représentants de deux groupes, plus un d'un troisième. Je vais m'expliquer. Les revenants des STO et les maréchalistes, ils vont s'effacer. Bon, les maréchalistes pour des raisons évidentes, à commencer d'ailleurs par le général Lafont, qui était tout à fait, lui, maréchaliste, à tel point que, paraît-il, je ne l'affirmerai pas, mais enfin c'est une tradition orale du mouvement que je rapporte ici, non sans courage, le général Lafont, qui était chef scout de France et chef du scoutisme français pendant la guerre, a continué à porter une Francisque à sa boutonnière, y compris pendant les années 50. Bon, il fallait le faire. Ça n'est pas que je l'admire pour cela, mais enfin, il faut reconnaître qu'il fallait un certain courage à l'époque. Alors naturellement, le général Lafont disparaît. Hein. Il disparaît, bon, on le met quand même, disons, au conseil conseil d'administration des scouts de France de l'époque, mais enfin, il disparaît des cadres du mouvement. En même temps, d'ailleurs, et c'est à relever que disparaît le dernier chef scout militaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le titre de chef scout avait jusque-là été porté sans interruption par des généraux. Il faut le rappeler. Donc ça amorce une certaine démilitarisation du mouvement après la guerre. Et puis avec lui disparaissent évidemment tous ceux qui étaient restés à Lyon jusqu'en 45. Sauf un, et on verra pourquoi tout à l'heure, c'est le père Forestier. Les revenants des STO, alors pour des raisons aussi plus politiques que morales, ne sont pas dans la course. Et ne sont pas dans la course non plus, si je puis dire, pour encadrer le mouvement renaissant après la guerre. Ceux qui, de même, ont suivi des trajectoires un peu différentes. Ceux qui se sont ouverts, comme on l'a dit tout à l'heure, type Cuisia-Goutté, se sont ouverts à d'autres perspectives, proches du scoutisme peut-être, mais avec beaucoup plus d'ouverture, si vous voulez. Ils ne sont pas les mieux placés pour maintenir et consolider l'identité scout. Et c'est un petit peu pour cela aussi qu'on ne les retrouve pas dans la cadre du mouvement. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste les revenants des camps, et ceux qui ont fait de la résistance en zone nord, essentiellement. En zone nord ou en zone sud, bien entendu. Enfin, les résistants et les revenants des camps. Voilà, ce sont ces deux groupes qui vont constituer pratiquement tout l'encadrement du mouvement. Et on va retrouver des hommes dont on parle encore, Michel Rigal, qui avait passé la guerre dans un off-flag, qui va être à partir du début des années 50 et pendant 20 ans commissaire général du mouvement. Michel Menu, résistant de la première heure, qui va être commissaire national de la branche éclaireur pendant une dizaine d'années, pendant les années 50. Et puis on va retrouver le père Forestier, alors lui auquel je viens de faire allusion. Pourquoi ? Tout de même, il s'était démarqué, il avait été maréchaliste très longtemps, le père Forestier, ça fait aucun doute, mais il s'était tout de même démarqué à la fin de la guerre des pétainistes proprement dit. Il avait joué un certain rôle, et je crois un rôle non négligeable à Lyon, dans des réseaux de protection, de couverture, de résistants, et surtout pour cacher des gens qui étaient recherchés par l'occupant. Le père Forestier, il va rester pour faire en quelque sorte le lien. Il va faire le lien entre la période de l'avant-guerre et la période de l'après-guerre. Il faut quelqu'un qui fasse le lien. Il faut quelqu'un qui maintienne la continuité, ne serait-ce qu'au point de vue symbolique. Cela dit, Marcel Denis Forestier ne va pas se contenter d'un rôle symbolique. Il sera aumônier général des scouts de France, après la guerre donc, et il va jouer un rôle tout à fait actif aux côtés des commissaires généraux successifs, Delsuc, Gauthier et Rigal, du moins jusqu'au début des années 50. C'est lui qui va d'ailleurs, à la fin de cette période-là, où il est aumônier général des scouts de France, écrire ce livre... qui va être la bible un petit peu du mouvement pendant au moins une dizaine, sinon une bonne quinzaine d'années, qui s'appelle « Scoutisme, route de liberté », et qui va reprendre non seulement une certaine tradition du mouvement, mais toute la pédagogie du mouvement, en l'actualisant, et à travers cette pédagogie, les principes, les grands principes qui vont être réaffirmés. Voilà comment ça se présente donc en 45.
Et c'est à ce moment-là donc que cette nouvelle équipe va avoir à redéfinir au fond les objectifs du scoutisme dans un cadre tout nouveau.
Dans un cadre tout nouveau et un cadre qui pose des tas de problèmes en 45. Là on a parlé de problèmes d'hommes jusqu'à présent, hein, compte tenu de leur trajectoire pendant la guerre, mais il y en a bien d'autres. Il s'ajoute au même moment, en 45-46, deux autres problèmes graves. Le premier qui concerne les relations avec l'État, avec la 4e République commençante, et le second qui a trait à la réorganisation du mouvement lui-même. Alors, je vais passer assez vite sur le premier. On a vu que, dans l'ensemble, les scouts n'aimaient pas la 3e République, qui vraisemblablement le leur rendait bien. Mais qu'en 40, ils avaient accueilli avec faveur, sinon avec ferveur, le régime de l'État français et le projet de révolution nationale porté par Vichy. Malgré les nombreux scouts ou routiers qui se sont engagés dans la résistance et qui, en tant que tels d'ailleurs, dédouanent, si je puis dire, le mouvement en 45... malgré un remaniement dans la hiérarchie du mouvement, celui-ci a peu de chances d'avoir de bons rapports avec la 4e République. La direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, d'ailleurs, est confiée à Jean Guéhenno, qui est un socialiste modéré, qui est obsédé par l'écart entre le peuple et la culture, et qui privilégie tout naturellement les mouvements d'éducation populaire. Alors, il en résulte que les mouvements confessionnels qui avaient été aidés financièrement par Vichy, se voient très vite privés de subventions, à commencer par les scouts de France. Ça pose quand même un problème, ne serait-ce que matériel, évident. Et puis alors, il y a toujours cette méfiance vis-à-vis de la République qui persiste chez beaucoup de scouts. Mais les problèmes les plus graves, ils ne sont pas là. Ils concernent la vie du mouvement lui-même. Et ils sont de deux ordres. Alors, il y en a un qui est très sérieux, mais qui est conjoncturel. C'est le manque d'encadrement. C'est la réorganisation des unités. À cela, il s'ajoute une jeunesse, enfants et adolescents compris, qui est traumatisée par la guerre et par ses conséquences, qui présente souvent des troubles physiques, des troubles nerveux, voire psychiques, et aussi un sens des valeurs qui est complètement bouleversé. Ça pose énormément de problèmes à la pédagogie scout, ça. C'est un aspect qui est déjà matériel et conjoncturel, mais qui est capital. Et puis, il y en a un second qui est tout à fait fondamental, lui, qui découle en partie, mais en partie seulement du premier, c'est que les responsables scouts, ils croient toujours à la valeur de leur méthode éducative, qui a fait ses preuves, avant et même pendant la guerre, avec le comportement brillant de la route, d'une manière générale. Mais ils se rendent compte que quelque chose a changé en profondeur, non seulement dans la société française et dans sa jeunesse, mais aussi dans la conception même du scoutisme. Le scoutisme ne peut plus être tout à fait le même qu'en 45 et en 46, qu'en 38 ou 39, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour la première fois peut-être, ces responsables se posent des questions fondamentales, du type, mais à qui le scoutisme est-il destiné? À quelle tranche d'âge, par exemple, en fait? Bon, est-ce que vraiment il est destiné prioritairement aux jeunes gens, ou aux adolescents, ou aux enfants? Enfin, à qui? Est-ce qu'il est destiné à une élite ou à la masse? Et s'il est destiné à une élite, de quel type? Parce que quand on dit élite, c'est un mot ambigu. Hein, de quel type d'élite? De quelle sorte d'élite s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut faire, en définitive, avec cet instrument efficace, remarquable, qu'est la méthode éducative scout? Alors, s'il n'est plus question de scoutiser la France, alors de quoi va-t-il être question? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à se poser finalement la question des fins, des buts du scoutisme. Et c'est là que les réponses vont commencer à être divergentes. Elles vont commencer à être divergentes suivant les individus qui sont à la tête du mouvement.
Et on va trouver là les racines, au fond, de l'éclatement du mouvement aujourd'hui, Scout d'Europe, Scout Unitaire, Scout de France?
Moi, je crois que c'est là qu'on les trouve, oui. Parce que cette question, en fait, elle se pose pendant 40 ans. Elle continue à se poser, à la limite. Hein. À qui le scoutisme est-il destiné et pourquoi faire? C'est une question, d'ailleurs, que je pense tout éducateur ne peut pas ne pas se poser en fonction de l'évolution de la société. On ne peut pas ne pas se la poser constamment. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit obsédé par elle, bien sûr. Mais de temps en temps, il est obligé. Moi, j'imagine qu'actuellement encore, dans certains camps écoles, on se pose, peut-être pas sous cette forme-là, mais on se pose ce type de questions. Qu'est-ce que nous faisons de cette méthode éducative? Comment l'adapter, d'abord? Et puis ensuite, pourquoi faire? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une question de ce genre. Alors donc, à toutes ces questions, à la fin des années 40 et au début des années 50, les responsables du mouvement vont apporter des réponses différentes et dans une certaine mesure incompatibles entre elles. Et cela d'autant plus qu'à travers ce questionnement, bon, quand on se pose ce genre de questions, on a recours à la tradition. Or, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre peu à peu que le scoutisme des scouts de France n'a pas une racine, une source, une tradition, mais deux. Deux qui présentent des caractères opposés. Et quelquefois même antithétiques, qui ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Alors la première, c'est Baden-Powell. C'est la méthode originelle. Et la seconde, qui est symbolisée par le père Doncoeur, c'est un scoutisme exigeant, à la fois très national, très catholique, qui est proche d'un certain mysticisme. C'est la conception d'un ordre scout, au sens où l'entendent les religieux. Il y a d'ailleurs des publications avant la guerre qui portent carrément ce titre, hein, vers un ordre scout, enfin. C'est un ordre laïque, bien sûr, mais c'est un ordre dont les règles de vie seraient proches de celles d'une chevalerie idéalisée. Et ces deux conceptions-là du scoutisme, dont on découvre à cette époque-là, hein, j'y insiste, après la guerre, hein, qu'elles vont avoir beaucoup de mal à coexister, elles vont en fait s'affronter au sein du scoutisme catholique français jusqu'à nos jours.
Dans ce contexte, parce que là il faut qu'on termine cette émission d'aujourd'hui, dans ce contexte, est-ce que l'Église, en la personne des évêques qui avaient été lents à accueillir le scoutisme, vont jouer un rôle d'arbitre ou de conseil?
Écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que qui représente l'Église à la tête du mouvement, c'est le père Forestier. Le père Forestier lui-même commence à se poser des questions. Lui aussi, il est déchiré. Vous comprenez, ça n'est pas un conflit, ça n'est pas une césure entre, pas forcément en tout cas, entre d'une part une partie des responsables scouts qui seraient tout à fait pour Baden-Powell et puis les autres qui seraient tout à fait pour le père Doncoeur. Hein, mais c'est souvent à l'intérieur du même responsable que se pose la question, si je puis dire. C'est un conflit interne. Vous comprenez, tout responsable scout est héritier de ces deux traditions. Et essayer de séparer l'une de l'autre ou même de donner la priorité à l'une par rapport à l'autre, c'est un véritable déchirement.
Voilà. On verra donc dans notre prochaine émission, la semaine prochaine, comment, de manière pratique et historique, les réponses ont été données. Merci Philippe Lanéry. Rappelons que toute cette étude, cette présentation, ce travail qui est regroupé dans ce gros livre, Les Scouts de France, l'évolution du mouvement des origines aux années 1980. Alors la semaine prochaine, nous irons de 1946-48 à un petit peu plus loin. Merci.